Les conférences du Collège de France.
Bonjour à tout le monde. Je continue mes présentations. C'est la deuxième présentation que je propose ici. Et la dernière fois, je m'étais arrêté ici. Je n'avais pas fini la première présentation. Et donc, je continue avec la fin de la première. Je commence maintenant à introduire quelques questions ponctuelles qui, à mon avis, sont intéressantes parce que surprenantes, qui sont soulevées par les tablettes trouvées à Tel Mardikh, l'ancienne Ebla. Cette question concerne en premier lieu des aspects primitifs de la rédaction des textes, et ce sont les points de A à 2. Et pas aujourd'hui, je continuerai avec la partie finale qui fait référence à l'histoire qu'on peut tirer des données des textes hébraïques. Et la partie finale sera un peu compliquée parce que, comme vous avez vu, on connaît beaucoup, mais il y a des aspects qui restent énigmatiques, problématiques. Et ça sera la partie finale prochainement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques questions ponctuelles qui font référence à la rédaction des tablettes cunéiformes d'Ebla. Et on le verra ensemble. Il s'agit en premier lieu de textes administratifs, parce que avant d'aborder les petites questions rédactionnelles, je pense qu'il convient de rappeler comment fonctionne un texte hébraïque, un texte cunéiforme d'Ebla. Et ici, j'ai choisi deux brèves sections tirées de deux normaux documents administratifs. Et elles peuvent être traduites sans trop de problèmes. Vous voyez ici à gauche une section administrative qui nous dit qu'une mesure kin, okay, c'est une unité de mesure, de laine, est pour la femme de la ville ou du village de Darib, la femme qui a envoyé du miel. Bon, ça c'est typique, c'est tout. L'enregistrement est simple. Une quantité suivi par quelqu'un qui a fait quelque chose. Et à côté, à droite, il y a une section un peu plus articulée parce que vous voyez des tissus et vous voyez un os, c'est cassé. Donc, quelque chose qui continue avec des quantités de tissus qui sont pour les gens d'un lieu, à Khazabig, et ces gens résident à Douki. Et alors, ici, la traduction est un peu plus problématique, parce qu'on peut, on peut traduire, et ça c'est correct, mais quoi nous lisons? Le vrai problème est que ces gens résident à Douki. Mais qu'est-ce que signifie résider à Douki? Il y a deux possibilités où les gens en question résident à l'extérieur du royaume d'Ebla, dans un autre royaume, le royaume de Douki, où les gens, évidemment, et des Eblaïtes, résident parmi les gens de Douki qui sont en déplacement, probablement, fort probablement, dans le royaume d'Ebla. Alors, ça, c'est pour vous montrer que la parenthèse est pour... C'est une interprétation successive à la simple traduction et ça ouvre les portes à des problèmes de géographie naturellement, mais aussi de fonctionnement de la société et des situations qui nous devons penser que sont des situations assez normales, ce n'est pas des questions extraordinaires. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont ou à l'extérieur ou avec des étrangers qui sont à Ebla. Khazabig est probablement un village d'Ebla, presque sûrement un village du royaume d'Ebla. Et ici, il y a un petit détail. Vous voyez les numéros 46, 34, 80. Quelle est l'addition de 46 à 34? 80. Donc, fort probablement, les gens étaient 80 personnes. On peut, et ça, ce n'est pas écrit explicitement. C'est nous qui nous faisons un pas après la simple lecture. Et on peut plus ou moins être sûr que les tissus avaient été donnés, et le verbe donner n'est pas là, mais on pense que les gens de Khazabig ont reçu des tissus. Qui a donné les tissus? Eh bien, les tablettes sont les tablettes trouvées dans les archives du roi d'Ebla, donc le roi a donné, mais lui-même, non, son administration. Donc il y a tout un système économique que nous voyons à travers ce petit enregistrement. Et on peut dire que le numéro 80 n'est pas innocent parce que pour des raisons pas si faciles à comprendre, on avait la tendance à mettre ensemble des gens, des travailleurs probablement, et pas nécessairement des travailleurs, peut-être quelqu'un qui était soit des travailleurs, soit des fonctionnaires, des groupes, sur une base de 20. Et 20 est un quart de 80. Donc, 4 groupes de 20, c'est-à-dire 80, 4 groupes de 20, c'est-à-dire 80 personnes. Et cette notation-là ne dit pas si les gens étaient homme ou femme. Ici, on dit que c'est une femme qui a reçu une quantité de laine parce qu'elle a envoyé du miel. Elle a envoyé du miel à qui? Probablement au palais. Mais qu'est-ce que c'est palais? C'est une étiquette un peu large. Peut-être derrière cet enregistrement-là, il y a l'arrivée d'une quantité probablement importante de miel au palais d'Ebla, ou dans l'endroit où le roi d'Ebla s'est trouvé. Parce qu'on sait très bien que le roi d'Ebla s'est déplacé constamment, et ça, ce n'est pas surprenant pour les collègues qui travaillent sur d'autres documentations. Très souvent, les rois, les hommes, en réalité, du palais étaient en déplacement, tandis que les femmes du palais restaient à la maison, disons. Bon, alors, vous voyez que derrière ces deux simples et anonymes, parce qu'il n'y a pas les noms propres, hein, Dame et Nasse, donc, mais on peut commencer à faire quoi? Ce sont des petits éléments d'histoire, si on veut, une histoire d'en bas, une histoire simple, une histoire de... c'est pas une inscription commémorative d'un roi, donc ce n'est pas la grande histoire, c'est la petite histoire. Si on met ensemble les centaines, et je veux dire les milliers d'enregistrements de ce genre, on peut commencer à bâtir un type d'histoire qui certainement est une histoire économique, sociale. Très souvent, on aimerait bien d'avoir des datations plus précises. Les textes de Blas ont très souvent des éléments chronologiques qui nous permettent de mettre en ordre, mais malheureusement, très souvent, l'ordre est encore instable parce que, contrairement à d'autres documentations qui étaient plus faciles peut-être à gérer aujourd'hui, il n'y a pas des indications précises de l'année. Il y a des indications précises du mois. Et ce qui est très important, parce qu'à travers les mois, on peut arriver à extrapoler des questions qui font référence aux saisons, et donc à mettre en ordre les activités humaines par rapport au calendrier, les saisons, atmosphérique, l'environnement et les calendriers religieux. Donc on peut obtenir des résultats importants au niveau chronologique, sauf que nous avons, et ça c'est une question que c'est difficile à résoudre parce que dans les textes il n'y a pas les indications que nous aimerions bien de lire, il n'y a pas l'indication de l'année. Ok, et ça pour dire comment un texte administratif fonctionne. On verra des textes plus complexes après, des lettres ou des rituels qui sont a priori plus complexes. Mais qui, ça c'est la partie nucléaire, c'est le minimum, et c'est déjà informatif. Surtout si on met ensemble une large quantité de données. Alors, ici, je vais penser, ça c'est trop naturellement, mais vous avez vu que les mots sont faits ou grâce à des sumérogrammes, comme celui-là, ou en italique, des choses en langue locale, disons, même si ce n'est pas précis. Et alors, il y a un mix, comme très souvent, d'expressions qui sont faites par des signes simples, par exemple « dame » qui signifie « femme », ou des syllabogrammes « aha, zabi, ig, ki » qui sont mis en séquence pour nous donner, surtout dans les noms propres, de la forme phonétique écrite d'un mot. Et ici, je propose quelque chose qui est assez énigmatique. Dumusang en sumérien signifie premier-né, c'est sûr. Bukrum, c'est l'équivalent sémitique, acadienne et pas seulement acadienne. Donc, on est dans un domaine lexical et sémantique sûr. On est dans une liste lexicale qui dit bilingue, donc deux langues mis en relation, et parmi les trouvailles à Ebla, les listes lexicales sont fondamentales parce qu'il s'agit des plus anciens vocabulaires bilingues qu'on a trouvés au Proche-Orient, et c'est un patrimoine formidable. Il y a des milliers d'équivalences lexicales qui sont à la base de la reconstruction lexicale de textes d'Ebla. Mais vous voyez comment les scribes ont écrit Bukrum. Bukrum a été écrit Bugaru, Bugalu, Bugulu. Trois tablettes différentes, trois scribes différents qui ont choisi trois différentes manières de noter Bukrum. Et en plus, d'une manière absolument imprévue, ils n'ont pas choisi d'écrire les deux syllabes Bukrum d'une manière simple, avec les signes book et les signes room, en utilisant les syllabogrammes, mais ils ont utilisé cette écriture-là, qui, quand a été vue pour la première fois aux années 70, a causé pas mal de problèmes, parce que ce n'est pas du tout le système acadien, c'est quelque chose qui est sémitique, certainement, mais pas dans la bonne forme acadienne qui déjà à l'époque plus ou moins était utilisée en Mésopotamie. Et vous voyez, j'ai mis en bas que pour écrire ces mots-là, niktashash, qui c'est une forme verbale du verbe kashashu, qui on peut traduire et comprendre, il écrivait bien ni-ik-da-sa-ash, qui est la forme pour rendre niktashash. Donc il était capable d'écrire à la façon mésopotamienne, mais il y a à côté d'un système déjà connu un système nouveau qui est décrit, et il y a des dizaines de recherches sur ce système d'écriture et l'utilisation du syllabaire. Et Manfred Krebernick, il y a quelques années, a dit ça. C'est-à-dire que si cette manière éblaïte d'écrire aurait continué, et elle n'a pas continué, elle n'a pas de successeur, pour des raisons inconnues, ce système d'écrire « Bukrum »,« Bugaru », qui est bizarre, le système n'a pas continué. Et donc, c'est bien pour les gens qui font de la sérologie, parce que sinon, on aurait eu les problèmes que Krebenik note ici, des problèmes comparables à ceux des gens qui étudient les textes mycénéens en linéaire B. Et ici, pour vous montrer la complexité de la notation, vous voyez des cas, et le premier est suffisant pour tout comprendre. En acadienne, tendon, on le dit matnum, ça c'est sûr. Et chassou, c'est la version sumérienne de tendon, c'est bien. Pas de problème. On fait référence surtout au tendon de la main, et il n'y a pas de problème de compréhension. Donc la sémantique est assurée. Mais la notation est bizarre, parce que dans la liste bilingue, on écrit madanu pour matnum. Donc il y a une A qui n'est pas dans la langue, mais il est dans l'écrit. Et on peut voir, et vous comprenez, jaune est ce que nous lisons et vert est ce que nous devons comprendre derrière l'écriture. Et vous voyez, beaucoup de choses bizarres. Nen est écrit néné. Et on peut continuer. Il y a une énorme variété de cas bizarre, si on considère les blaïtes comme un dialecte, ou si on les lit comme s'il était de l'acadienne. Et non, il y a des problèmes, et il faut comprendre l'usage du syllabaire. Et vous voyez ça, et c'est, j'ai pas le temps pour tout noter, mais chaque fois, il y a des choses nouvelles, comme par exemple la notation de la R étymologique, qui est sûre, avec un signe avec L. Et il y a d'autres choses un peu étranges. Mashkanum écrit Mashkanu, ok, mais aussi Mashakanu. Et on peut continuer, il y a beaucoup de cas semblables, et dans les grammaires ou dans les introductions, désormais, il faut user des pages et pages pour dire, expliquer aux collègues qu'il ne faut pas lire d'une manière simple, il faut réfléchir. La lecture, et ça c'est un problème moderne, hein, pour eux était évidemment tout marchait bien. Et encore, il y a beaucoup de cas semblables que je ne peux pas tout commenter. Il y a aussi des choses qui sont très jolies au niveau culturel. Par exemple, ici, il y a les mouchkenu, la forme la plus archaïque que nous avons de ce mot, que j'ai traduit dans cette manière, qui est peut-être juste, peut-être non. Pas juste, mais il y a des formes bizarres d'écrire ce que après est bien écrit, normalement écrit. Et donc, ici, on voit aussi toute la complexité de la notation pour les noms propres, soit des personnes, soit des lieux, de Dieu, des moi, qui doivent être considérés parce que, à partir des noms propres, on peut faire de la prosopographie, on fait la géographie, on fait des extrapolations sur les calendriers, etc. Donc, c'est plein de conséquences. Tout simplement, Terka, la ville bien connue de Terka, bon, on l'écrit Terga ou Tiriga. Et ça, c'est un fait. Et c'est clair que c'est toujours la même ville. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il y a cette variété? Alors, si on avait une chancellerie d'un palais royal, disons, probablement mésopotamien, avec des scribes qui travaillaient en utilisant un système compact et en répétant toujours les écritures avec les mêmes règles, on ne s'attendrait pas toute cette variété. Donc derrière, il y a quelque chose qui est culturel, historique, qu'il faut comprendre. Il y a peut-être trop de variétés pour avoir une situation normale. Alors, mais puisque l'histoire est normale, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la réalité factuelle. Qui étaient ces gens-là qui écrivaient dans cette manière si variée et si nouvelle pour nous? Et encore, on travaille beaucoup sur cet aspect, sur les conséquences de la notation. Et je crois que celui-là est fini. Après, il y a une autre question intéressante. Vous savez que dans la sériologie, mais en général dans la philologie, si tu as deux textes parallèles, bon, la situation est meilleure qu'un texte seulement. Et il y a des textes parallèles à Ebla qui nous aident beaucoup. Et le parallélisme peut être, comme dans les rituels, peut être pas complet, mais suffisamment complet pour maîtriser les différences. Je veux dire, si on fait un rituel aujourd'hui, on écrit une tablette. Si on fait le même rituel l'année prochaine, même jour, pour des raisons de calendrier, pour des raisons qui pourraient être bien connues, on refait plus ou moins la même textualisation, la même notation, mais naturellement, si à la place de Marco Bonecchi, il y a John Smith ici qui parle, on changera les noms, pas Marco Bonecchi, John Smith à ma place. Donc, on peut comprendre ça. Et ce sont des parallélismes que nous pouvons maîtriser. Mais il y a d'autres cas, et ça c'est sur les rituels, donc il y a des raisons historiques pour les changements. Mais dans d'autres cas, il y a des vrais duplicats. Donc ce n'est pas que dans la réalité, il y avait un événement proche mais pas égal. Il y a des duplicats. Donc, des photocopies, disons, précises d'un texte. Et on constate des variantes un peu bizarres. J'ai recueilli trois cas typologiquement différents, très différents. Il y a un texte plus ou moins administratif qui, c'est une liste de places où l'image d'un dieu s'arrêtait pendant une circumambulation, un tour de l'image divine. Deux textes par duplicat. Il y a deux duplicats de prescriptions cultuelles qui font référence à des activités des étrangers qui habitaient, pour des raisons difficiles à comprendre, dans les royaumes de Bla, et c'est là les gens des armées, des étrangers. Et après, un texte littéraire, un texte religieux, un hymne à une divinité mésopotamienne. Et why? Dans les textes de la circumambulation, un toponyme est écrit dans cette manière, dans un cas, et il est écrit d'une manière un peu différente dans un autre cas. Et cette forme-là est bizarre parce que chi n'est pas bon. On aurait aimé avoir si comme variante de chez trois. Donc, pourquoi ça? Et peut-être, le texte a été rédigé par les mêmes scribes. Ici, il y a l'addition d'un pronom suffixe sous trois qui, ou sous ma qui change un peu les parallélismes. Pourquoi? Et dans ces cas-là, dans les cas de l'hymne, nous sommes sûrs que le même scribe a écrit les deux versions, les deux duplicats de l'hymne. Parce qu'il est signé à la fin, il y a un colophon où le scribe Tiraïl écrit: moi, je suis le scribe, le copiste en réalité, qui a produit ces deux tablettes. Donc, la même personne a changé la notation d'une manière assez importante, dans le sens qu'il a choisi des signes différents, Ba 4 contre Ba 1, et il a changé, probablement, c'est une faute orthographique, il a changé quelques signes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, désormais on connaît ça, et il faut la mettre dans un chapitre idéal d'une description, d'une morphologie des textes de Blas, pour éviter de penser que Shéamou et Shéamou sont deux toponymes différents, ils sont les mêmes. Encore, dans les rituels, il y a les deux grands rituels parallèles, qui sont presque des duplicats, mais pas des duplicats, et il y a une troisième tablette plus petite qui a été écrite en fonction de la deuxième. Et vous voyez les différences. Un homme divin qui écrit comme ça, sinon il écrit comme ça, et vous pouvez suivre toutes les variantes graphiques qu'on peut constater dans les textes qui sont absolument parallèles. Alors, dans les duplicats, on pourrait penser que la distance chronologique de rédaction des textes est courte. On peut penser que les trois textes qu'on a vus auparavant étaient faits, les trois couples de textes ont été faits à une brève distance. Ici, entre les deux rituels, il y a certainement une distance chronologique importante, donc pas des jours ou des semaines, mais des années. Et on verra à la fin, dans la discussion plus historique, que cette distance est cruciale pour comprendre un développement interne de la vie du royaume des Blas à la fin, presque à la fin, juste avant l'incendie du palais. Et alors, cette variante peut être chronologisée et nous donne des indices pour résoudre d'autres problèmes ou pour voir d'autres problèmes difficiles à résoudre. Et ça, c'est encore un cas, c'est complexe. Hein. Et ça, c'est une sélection. Il y en a plus de cas comparables. Naturellement, l'aspect paléographique est important parce que vous voyez ici dans, quatre signes cunéiformes et vous voyez les mêmes mots, les mêmes expressions qui sont comment elles sont écrites dans les tablettes, dans les trois tablettes différentes. Et vous voyez des différences visuelles, physiques, des calligraphies en effet, mais aussi de comment les signes sont organisés à l'intérieur de ce que nous appelons case. Oui, les Anglais désormais utilisent box ou case. Et vous voyez ici, le mot est chazano kubabar, est un objet en argent, un chazano en argent. Vous voyez chazano kubabar ici, et vous voyez la disposition différente. Cha, qui est celui-là, sa, qui est celui-là, et le nu, qui n'est pas à droite du ça, mais il est déplacé en bas. Parce qu'il n'avait pas bien géré l'espace, et donc il a écrit d'une manière différente. Alors ça, ce sont des indices importants pour reconstruire, naturellement, pour comprendre qui a écrit quoi. On peut attribuer à des scribes une solution, la solution 1, 2, 3, ou un autre scribe, la solution 1, 2, 3. Ce sont des scribes différentes, et à partir de cet exemple-là, on pourrait, dans un futur qui n'est pas proche, on pourrait avoir des bonnes idées pour dater les tablettes, pour les mettre en des groupes, et ça nous donnera beaucoup d'informations au contour très importantes. Parce qu'on lit, hein, on les lit, ce n'est pas un problème de lecture, on les lit, mais il faut les classer. Et vous voyez que, et ça me donne l'occasion de présenter les deux documentations qu'il faut étudier, si on veut étudier les textes de Blas, les deux autres documentations, le texte présargonique de Marie et le texte présargonique de Nabada. Vous voyez dans ces cas-là le signe ba, qui est un signe très simple. Vous voyez ici, il y a une forme et ici, il y a les autres formes qui sont différentes, mais la vraie différence est que ici il y a quatre clous, 1, 2, 3, 4, 4, 4, ici il y en a 3. Et on avait, et c'est sûr hein, ça, parce que ici il y en a 4, et ici il y en a 3. Donc ce n'est pas un dessin moderne, c'est vraiment le scribe ancien qui a fait comme ça. Et ça donne l'occasion de dire que un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui pour bien comprendre le texte de Blas est causé par une chose qui est aussi le contraire d'un problème, c'est-à-dire une gloire, une chose formidable, c'est-à-dire le fait qu'on a trouvé du cunéiforme si éloigné de la Mésopotamie à cette époque si ancienne. Et Marie et Nabada sont les deux villes qui nous donnent des renseignements comparables parce que, bon, le fait qu'ils sont dans la Syrie moderne ne dit absolument rien, c'est un hasard moderne, mais ils sont à une distance en kilomètres qui est encore, peut être interprétée comme une distance proche, à la limite, mais encore proche. Donc ce n'est pas la vraie Mésopotamie. Et il y a, par exemple, à Marie, récemment, on a découvert des nouvelles tablettes presargoniques qui ont été publiées, et dans une de ces tablettes, il y a un renseignement explosif pour nous qui faisons Ebla, parce que pour la première fois, le grand dieu de Bla, Dingir Kura, le dieu Kura, inconnu d'ailleurs, et problématique, a été trouvé dans une tablette qui ne vient pas de Bla, mais qui vient de Marie, à des centaines de kilomètres de distance. Et pourquoi à Marie on a noté le dieu de Bla? On pourrait penser que, symétriquement à ce que nous voyons à Ebla, où nous voyons des gens de Marie qui sont à Ebla, et nous voyons que ces gens ne sont pas isolés, ce n'est pas un, deux, trois hommes ou quelquefois des femmes aussi, mais ce sont des groupes et peut-être des centaines. Donc une communauté, des petites communautés d'étrangers qui, dans ces cas-là, qui viennent de Marie, qui sont à Ebla et dans les royaumes d'Ebla, eh bien, on pourrait penser que symétriquement, à Marie, il y avait une communauté éblaïte ou quand même, il y avait quelqu'un qui avait des raisons pour faire référence à la divinité d'Ebla, mais dans la ville de Marie, à Tel Hariri, pas à Ebla. Donc la situation était certainement beaucoup plus complexe, il y avait une circulation énorme des gens, déjà à cette époque, qui, pour les gens qui font Marie par les Babyloniennes, est naturellement une chose évidente, ouais. Mais on peut la formaliser d'une manière précise. Et on voit ici un autre aspect que j'ai essayé de mettre en évidence récemment, une tablette lexicale bien écrite, qui à la fin, ça c'est la fin de la tablette, on voit très bien que le scribe a formaté son texte avant d'écrire les signes, parce qu'il a fait la ligne verticale. Après, certainement, il a commencé à faire des lignes horizontales pour créer des cases vides. Après, il a commencé à écrire un, deux mots. Après, il a écrit ces mots-là à gauche en laissant cet espace blanc. Et après, il a laissé la tablette vide. Donc, quelque chose s'est passé à un moment donné, à la fin de la rédaction de ce texte. Le scribe a pris des décisions qui n'ont pas donné lieu à une situation finale standard, parce qu'il s'est arrêté, pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Peut-être, tout simplement, parce qu'il avait besoin, il est allé manger et il a fini son travail comme ça, donc pour des raisons bêtes, peut-être. Ou pour des bonnes raisons un peu plus intellectuelles que nous ne comprenons pas. Mais vous voyez qu'il y a des traces intéressantes de la rédaction formelle des tablettes. Encore un élément, ça c'est un peu plus compliqué, mais encore, on peut jouer avec Marie et Nabada, et on peut jouer avec la Mésopotamie en plus. Les syllabaires ont des signes, les signes al ou les signes al 6, ou les signes roux ou les signes roux 12. Et on peut contrôler la distribution de ces signes. C'est un peu comme dans votre maison, si quelqu'un arrive et regarde comment vous écrivez, et à partir de la documentation, peut reconstruire des événements de votre vie qui vous croyez intimes. Dans ce cas-là, on peut entrer dans les mondes des scribes, voir des choses, on fait des bêtises. Moi, j'ai fait une bêtise en 2003, évidemment, qui a été corrigée après. Et ce qui est très intéressant est que le signe roue 12 est typique de Blas. On ne l'avait jamais vu avant la découverte des textes de Blas. Mais des gens, des étrangers qui étaient dans les royaumes de Blas, des étrangers qui venaient de Nagar et de Mari, donc Mari et Nabada, Nabada n'est pas Nagar, mais très proche de Nagar, des étrangers à Ebla, qui évidemment avaient un nom. Les scribes d'Ebla ont noté les noms des étrangers en utilisant les signes roue 12. Et c'est sûr que dans les tablettes de Mari et de Nagar, de Nabada, les signes roue 12 n'étaient pas utilisés. Donc, les scribes de Blas ont fait quoi? Il y avait probablement deux possibilités. Une est de copier des textes étrangers, et nous avons la preuve, par exemple, l'hymne à Amaushumgal qu'on a vu auparavant, c'est un texte qui certainement venait de l'extérieur, venait de la Mésopotamie Ebla, et quelqu'un l'a copié à Ebla. Donc, on pouvait copier des tablettes externes qui n'avaient pas roue 12. Les tablettes auraient eu avoir roue 1 par roue 12, et donc ce n'est pas ça le cas. Alors, probablement, le scribe a écouté la phonétique du nom de l'étranger et il a écrit à sa propre manière, comme nous faisons, moi en Italie, je le fais avec, si je ne suis pas familial avec un nom français, je peux l'écrire à l'italienne, ça sera un peu bizarre, mais en Italie ça peut marcher, et le contraire on peut l'imaginer. Donc peut-être ils ont fait une opération qui part de la phonétique et qui arrive à la textualisation. Donc il était copiste, mais peut-être il était aussi attentif à la partie performative, à la partie vraiment vivante, phonétique des situations qu'il allait formaliser dans les textes. Et ce qui est intéressant est que après Ebla, après la découverte d'Ebla, on peut faire on peut améliorer la compréhension de quelques documents qui viennent de la Mésopotamie. C'est-à-dire, la Mésopotamie, grâce à la Mésopotamie, nous comprenons beaucoup Ebla, parce que, naturellement, la Mésopotamie est plus forte, est mieux connue, il y a plus de textes, il y a une tradition interprétative. Ebla était une nouveauté, donc au début, on a tout copié de la Mésopotamie. Mais maintenant, on peut faire quelques améliorations dans l'autre direction. Par exemple, cette tablette qui a été publiée il y a longtemps et qui a été considérée une tablette de Nippur, donc pays des Sumères, partie nord du pays des Sumères. Désormais c'est sûr, qu'il y a un nom propre, Zamaru, avec roue 12. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que même en Mésopotamie, il y avait quelqu'un qui utilisait roue 12 à la place de roue 1, et ça a des conséquences. Ou sinon, que cette tablette a été faite en Mésopotamie en faisant une copie d'une tablette syrienne qui est arrivée en Mésopotamie et qui avait roue 12. Donc le scribe a copié sans normaliser en roue 1. Donc, on peut faire des réflexions intéressantes, et ça, c'est très petit, comme un cas très ponctuel, mais Ebla peut être désormais utilisé dans les deux directions. Ce n'est pas que de la passivité, comme au début, quand tout le monde a bâti une Ebla passive. Désormais, non, on peut améliorer et mettre en évidence la partie créative, vous le disiez, la partie des scribes de Blas. Et Et enfin, les, je l'ai dit mal, les bégments, bègue en français, c'est-à-dire l'homme qui, ou la personne qui bègue. Alors, vous, je l'ai mis en contexte parce que ça fait référence à un grand problème. À nouveau, les listes lexicales, les bilingues surtout, les listes bilingues. Il y a deux possibilités qui ont été notées d'une manière de grands savants. Il y a quelqu'un qui pense qu'à Ebla, on trouve des exemplaires qui, au fond, sont viennent de la Mésopotamie et que les bilingues, les listes bilingues, étaient déjà faites, même si on n'a pas des exemplaires trouvés par les archéologues, mais elles étaient déjà faites par les scribes du grand royaume de Kish avant l'Empire Akkadien, donc, disons, une époque abou-salabique, peut-être déjà à l'époque des pharaons, donc quelques siècles avant Ebla, ou au contraire, les listes sont une nouveauté introduite en périphérie, parce qu'en périphérie, on avait besoin d'une bilingue, pas dans le centre. Et alors, ça c'est compliqué. Peut-être la vérité ou la bonne route est à moitié. Et la situation, on verra, c'est très, réalité est très complexe, comme d'habitude. Mais j'ai mis trois cas ici pour vous montrer, au niveau lexical, quelle est la situation de trouvailles. Il y a les mots pour l'endroit où on s'arrête pour dormir. Il y a les mots, les deux mots pour beg et begment. Et encore, j'ai mis les bukrum, qu'on a déjà vu, les premiers nés. Il y a trois solutions différentes. Et à partir de ces trois situations, on peut tirer des conséquences sur la diffusion des langues et sur l'organisation moderne des dialectes sémitiques archaïques de l'époque, de la moitié du troisième millénaire. Ce qui est intéressant ici est que l'ishanum, langue, est bien connu, donc ça c'est facile à comprendre, c'est quelque chose qui est dit de la langue, mais physique, pas du langage, mais de la langue. Mais les deux autres mots, padimum et allakum, ne sont pas dans les vocabulaires acadiens. Au contraire, il y a des comparaisons possibles avec l'arabe, l'ougaritique et l'hébreu. Et ça, pour dire une chose, que oui, Ebla et les tablettes Ebla sont doivent être étudiées par les assyriologues, c'est sûr, c'est du cunéiforme. Donc, mais il faut avoir sensibilité et compétence, pas seulement en acadien et en sumérien, mais aussi en arabe, en ugaritique, en hébreu et peut-être dans d'autres langues sémitique et peut-être dans quelques cas en égyptien aussi, qui sont à l'extérieur de la région cunéiforme standard. Ok, alors ça, je crois que c'était la fin de la partie A. Maintenant, je voudrais entrer dans quelques textes un peu plus complexes. Celui-là est un texte célèbre parce que c'est une lettre et il s'agit d'un des rares textes fameux qu'on peut mettre dans une anthologie moderne de textes célèbres de l'Antiquité cunéiforme, et c'est la lettre de Hamasi. Et c'est sûr que c'est une lettre parce qu'il y a deux fois le mot enma qui signifie ainsi, et qui était utilisé à l'époque pour introduire un texte qui un messager aurait lu en amenant la tablette avec la lettre à une distance qui peut être considérable parce que c'est un texte trouvé à Ebla, mais l'autre nom géographique est Hamasi, et comme quelqu'un peut m'enseigner, Hamasi, c'est sûr qu'il est dans la région qui va devenir la Syrie, et c'est proche du Tigre, donc à une très grande distance dans l'est, nord-est, mais est en réalité. Donc ça c'est le texte que nous avons. Et malheureusement, il y a une très grande cassure ici, mais probablement le texte était fini parce que ici, il y avait au début du revers, il y avait un grand espace blanc et peut-être ici, il n'y avait rien. Peut-être. Déjà, ça est bizarre. Hein? La formatation de ce texte est particulière parce que les scribes avaient une tablette beaucoup plus large. Pourquoi il a choisi l'argile de cette dimension si le texte était la moitié? Donc, il y a des décisions. Et naturellement, le vrai problème est qu'est-ce que nous avons dans nos mains aujourd'hui? C'est une lettre, mais ça signifie quoi? D'abord, c'est correspondance active ou passive? Et tout le monde, à partir de l'édition au tout début, parce qu'on s'est aperçu très tôt que c'était un texte formidable, tout le monde a dit que c'était un texte qui partait de Blas pour aller à Hamasi. Donc, c'est de la correspondance active. Et le texte est célèbre pour une raison que vous pouvez comprendre. Regardez, sans connaître les mots anciens, la répétition « Andashesh » ou « Anashesh » écrit deux fois, et ici, à nouveau, « shesh, shesh ». Et « shesh » signifie « frère », donc c'est un texte célèbre parce que son interprétation a très vite montré que c'est probablement le cas le plus ancien de fraternité déclarée entre deux pouvoirs politiques. Et donc la fraternité, dans quelque manière, doit être interprétée comme une relation d'importance politique symétrique, même niveau. On est frères, donc on est. Et ça, naturellement, les gens qui étudient les tablettes successives n'ont pas de difficulté à comprendre l'importance de ça. Bon, ça c'est la base, ce texte publié en 77. Dans une anthologie comme celui-là, quelqu'un en anglais a fait la traduction qui était fondée sur d'autres traductions. À ma connaissance, il n'y a pas une traduction française courante. Il y a en italien, en anglais et en allemand, mais pas en français, à ma connaissance, peut-être que je me trompe. Et ici, un très bon savant, un très bon collègue avait écrit « This letter was addressed by » Et vous voyez que qui a écrit la lettre est quelqu'un de Blas, high official, un officier fonctionnaire de Blas, qui l'a envoyé au roi de Hamasi. Et ok, le sujet sont des mulets en réalité, des équides, et on le sait maintenant, ils sont des troncs d'arbres. Donc, il a un échange de biens précieux, mulets et troncs d'arbres. Arbres qui ont été interprétés d'une manière différente, mais en tout cas des arbres très grands qui étaient utilisés pour des activités édilices. Et les mulets, au contraire, étaient meilleurs que les ânes pour des activités qui diverses, qui pouvaient être soit le commerce, soit la guerre. Donc, à côté de la fraternité, il y a un échange de deux biens très précieux qui sont propres de deux pays. Les mulets sont propres du pays de Hamasi et les arbres sont propres du pays de Ebla. Alors, Dominique Chapin a écrit des choses importantes sur la question de la correspondance active ou passive. Et naturellement, si la lettre est une lettre d'Ebla à Hamasi, et si la lettre a été trouvée à Ebla, pas à Hamasi, ça veut dire que si la lettre a été expédiée, c'est une copie. Sinon, si la lettre a été trouvée à Ebla, peut-être elle n'a pas été expédiée pour des raisons inconnues, et donc c'est un brouillon, ou pour des raisons imprévues, juste après la rédaction de la lettre n'a pas été envoyée parce que quelque chose a changé dans la réalité factuelle. Et ça, c'est fondamental. Il faut considérer la lettre de Hamasi avec ses backgrounds, avec cet arrière-plan, c'est clair. C'est ça le grand problème. Alors, indépendamment, Van Nabig et moi, nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas une lettre Ebla-Hamasi, c'est une lettre Hamasi-Ebla. Donc, c'est de la correspondance passive. Mais, malheureusement, la lettre n'est pas le témoignage de l'école scribale de Hamasi, pour des raisons qui sont fortes. Probablement, cette tablette est le résultat d'un travail fait à Ebla en travaillant sur des documents plus anciens pour produire ce que pourrait être appelé, je ne sais pas, un mémorandum ou un dossier. C'est-à-dire, quelqu'un a retravaillé la lettre reçue, envoyée de Hamasi, reçue à Ebla. Quelqu'un qui, probablement, avait des raisons pour faire ça et qui, probablement, appartenait à une génération successive. Donc, c'est plus compliqué. Parce que si la tablette est Ebla Hamasi, il y a le problème de pourquoi elle a été trouvée à Ebla. Et il y a des choses qui restent difficiles à comprendre, surtout au niveau prosopographique. Le vrai grand problème est que l'homme, le premier homme qui est mentionné, porte un nom qui n'existe pas dans les archives d'Ebla et qui est qualifié d'une manière forte, parce qu'il est, avec des sumérogrammes, il est Agrig E2-1, c'est-à-dire les intendants du palais royal. Donc, c'est un homme de grande importance et on n'a jamais trouvé de référence à cet homme dans les tablettes de Blas. Il y a des milliers de tablettes. Donc, c'est bizarre que l'expéditeur soit un inconnu. Et alors, le plus probable est que l'expéditeur soit l'intendant du palais de Hamasi, du palais royal de Hamasi. Si ça c'est vrai, la tablette peut être comprise d'une manière nouvelle, très intéressante, et la fraternité reste, naturellement, et l'échange des mulets et des troncs d'arbres reste, c'est pas ça le changement. Ce qui est intéressant plutôt, c'est la position de « tu es mon frère et je suis mon frère », parce que « tu » dépend de qui écrit, parce que si moi je suis quelqu'un de Hamasi, tu es quelqu'un d'Ebla, mais si moi je suis quelqu'un d'Ebla, tu es quelqu'un de Hamasi. Et ça change la nuance, parce que c'est intéressant de voir qui est, pourquoi on commence avec tu et pas avec moi. Et il y a des règles rhétoriques, il y a tout un niveau ultérieur pour comprendre la réciprocité, parce qu'il faut l'écrire et il faut utiliser toi, tu et moi, je, tu. Donc, c'est intéressant à étudier. Et alors, tout reste compréhensible si on fait l'inversion, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On n'est pas capable de tout résoudre. De nouveaux problèmes intéressants. Et en plus, peut-être il y avait deux lettres, parce qu'il y a deux fois Enma dans la tablette. Deux fois, pas une fois. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être plus semblable à une Sammeltafel, une collection de lettres qui donc pourrait être interprétée comme une rédaction successive à partir des documents perdus aujourd'hui, parce qu'ils ont été utilisés pour produire ces textes tardifs et on n'a pas trouvé les documents originaires. Ici, il y a un scribe, Tiraïl. On a déjà trouvé M. Tiraïl, le scribe d'Ebla. C'est sûr qu'il est un scribe d'Ebla. Alors, à Ebla, on a trouvé ce texte qui, en anglais, est appelé comme ça, la liste de noms et professions. C'est une liste lexicale particulière. On sait qu'il vient de la Mésopotamie, ce n'est pas un produit local. Il a été copié à Ebla. Les Eblaïtes avaient des raisons pour avoir ce texte chez eux, probablement parce que la place d'origine, qui est Kish, était le grand partenaire commercial et politique de Mésopotamie. Donc, ce n'est pas absurde, vu de la part du palais royal d'Ebla, d'avoir des documents qui parlent d'un partenaire commercial top niveau. Et ici, on peut voir que la liste qui a presque 150 voix est organisée d'une manière hiérarchique. On commence avec les souverains. Indépendamment de l'interprétation, il y a deux interprétations, mais en tout cas, la ligne numéro 1 est le souverain, le Kish. Et à la fin, il y a des gens qui sont n'ont pas les rangs élevés de la partie qui commence. Et on voit qu'à côté du souverain, après il y a le gouverneur, les chefs de la comptabilité, il y a quelqu'un qui s'occupe du cadastre, il y a les scribes et il y a un commandant militaire. Donc les scribes arrivent à la place numéro 5 et si cette tablette reproduit dans quelque manière, dans une manière intellectualisée, une société comme la société de Kish, on pourrait tirer la conséquence que les scribes étaient proches du roi. Et ils faisaient peut-être partie d'un gouvernement, si on peut utiliser les mots qui ont été utilisés par des collègues qui font les premiers millénaires ou même les bronzes moyennes. Et donc, ça c'était un indice que de la position sociale importante du scribe à l'époque, à la moitié du troisième millénaire avant le Christ. Ce n'est pas sûr d'ailleurs que Ebla c'était les mêmes, parce que est-ce que Ebla et Kish étaient vraiment comparables au niveau sociopolitique? J'utilise sociopolitique d'une manière simple. Complexité et organisation interne et ampleur de la machine administrative qui produisait les textes, entre autres. Probablement non. Mon impression est que Kish était comme ça et Ebla était comme ça. Donc là, il y a une vraie différence. Mon impression est que Ebla, en faisant des analogies historiques qui sont naturellement à prendre comme des indications informelles, Ebla était plus proche peut-être à Venise, une république marchande, même si les différences sont énormes naturellement, mais était plus proche à Venise et Kish était plus proche à Paris. Dans le sens que la Mésopotamie avait déjà probablement des états territoriaux dans lesquels le contrôle sur le territoire, d'ailleurs assez facile parce qu'une région plate et sans montagne, sans vallée, sans trop de grands problèmes de gestion de territoire comme dans les périphéries tout autour de la Mésopotamie. Probablement Kish était vraiment un large état territorial déjà à l'époque. Ebla peut-être était beaucoup plus petite. Les scribes naturellement pouvaient être quelqu'un d'important, je ne vais pas dire que non, mais peut-être l'organisation d'Ebla était plus proche à une entité politique qui avait dans le commerce et la diplomatie ses propres valeurs fondantes, plutôt que le contrôle du territoire, l'agriculture et des choses qui sont plus typiquement mésopotamienne. Je vois cette différence qui, d'ailleurs, n'est pas surprenante parce que même dans les siècles et les millénaires suivants, plus ou moins la question était pensée assyrienne et phénicienne, donc ce n'est pas nouveau, franchement. Donc la situation des scribes de Blas ne peut pas être calquée sur la situation kishite que nous voyons ici. Alors, je crois que c'est 12, donc on a encore terminé. Et la prochaine fois, j'entre mieux dans les domaines des scribes de Blas en montrant des situations articulées qui font réfléchir sur la diffusion du cunéiforme beaucoup plus large de ce qu'on peut penser. J'arriverai à dire que Blas est la pointe d'un iceberg qui doit être vue comme vraiment large. Je veux impliquer qu'on utilisait les cunéiformes à la moitié du troisième millénaire jusqu'à la Turquie, le Liban et le sud d'Israël, la Palestine et encore plus au sud. Surtout parce que, et ça c'est une grande découverte récente, on a désormais la preuve que l'Égypte des pharaons était attestée à Ebla. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.